Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse cette petite voice parce que j'ai échangé un peu par hasard avec Nicolas Orcade, qui est sociologue spécialiste des supporters. C'est un vieux compagnon de route de SoFoot. Il a participé à pas mal d'articles en qualité de journaliste et de spécialiste. Et je me disais qu'il aurait pu être pas mal de l'interroger sur les récentes convocations par les groupes ultra des joueurs et de lui demander le véritable pouvoir que ces groupes de supporters peuvent avoir dans les clubs en France. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
J'espère que ça va. Écoute, comme tu le sais, c'est un sujet cher à mon cœur. Donc, très chaud pour avoir une discussion autour du sujet des ultras avec Nicolas Orcade. Je pense que ces éclairages peuvent être très intéressants pour tout le monde. Dis-moi quand et je serai là avec grand plaisir. Allez, à plus vite.
Écoute, top. Et puis, quel beau sujet pour signer ton retour. Allez, à mercredi en studio.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Le retour, oui, le retour. J'étais effectivement absent sur le dernier épisode et sur deux épisodes plus tôt dans la saison. Donc j'ai brillé par mon absence. Et aujourd'hui, il y a un autre membre du podcast qui brille par son absence. C'est le grand monsieur Cissé, qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur à titre personnel aussi, puisqu'on va parler des ultras en long, en large et en travers. Et on a le plaisir de recevoir Nicolas Orcade. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On connaît Nicolas. Je dois préciser les auditeurs, je dois préciser que Nicolas a longtemps collaboré et collabore toujours. C'est un ami du magazine SoFoot. Donc il connaît très bien SoFoot. Donc il est là en qualité de sociologue à l'école centrale de Lyon, spécialiste des supporters, membre aussi de l'instance nationale du supporterisme et ami et de la maison SoPresse quand même.
Tout à fait.
Je tiens à le souligner.
Merci Nicolas de nous faire l'amitié d'être là du coup comme l'évoquait Maxime. Et on va commencer par une question qui est traditionnellement posée par Monsieur Cissé. Quel est ton lien avec le football ?
Eh ben, je suis né dans une famille de football, donc le football est arrivé très tôt dans ma vie et il fait partie indissociable de mon existence. En ce sens que l'une des choses que je raconte, c'est que mes deux grands-pères, paternel et maternel, étaient à l'inauguration du stade de l'Escure à Bordeaux à la Coupe du Monde de 1938. Et donc, tant du côté paternel que maternel, soit les gens ont joué au football, soit ils ont été dirigeants de club. Et dans ma famille, on va au stade. Bon, moi, donc, je suis de Bordeaux, j'allais au stade à Bordeaux. Je suis toujours supporter des Girondins, même si c'est pas toujours facile. C'est même très difficile. Et donc, mon rapport au football, c'est ça. C'est un rapport qui a été longtemps très passionnel et qui, aujourd'hui, c'est un peu avec l'âge un peu distendu aussi. Mm-hmm. Aussi, sans doute, lié au fait que, comme je travaille dessus, il y a sans doute une distance qui se met. Puis, je pense aussi que voir des matchs Girondins, ça dégoûte un peu du football. Donc voilà, maintenant je regarde presque autant de rugby, voire plus de rugby que de football.
D'accord.
Mais voilà.
Il y a une forme de transition qui s'est opérée.
Tout à fait.
Et du coup, quel est ton lien avec les supporters, les tribunes ?
Alors mon lien avec les supporters et les tribunes, hein, déjà un lien personnel, c'est-à-dire que donc moi je suis vieux, je suis né au début des années 70, et donc les années 80 j'étais adolescent, et d'une part c'est la période où les Girondins de Bordeaux sont un grand club, où ils sont champions, où ils gagnent la Coupe de France, ils font des doublés, ils font une demi-finale de Coupe des Champions contre la Juventus, et c'est aussi quand la Juventus se qualifie, derrière ils vont au Wesel, contre Liverpool, 39 morts, quand tu vois le match en direct à la télé, que toi-même t'es supporter, tu vis ça, tu comprends pas quoi, tu te dis mais comment moi ma frustration peut donner lieu à ces débordements-là. Et ensuite, tu entends tout un ensemble de discours dans les médias sur les supporters qui correspondent absolument pas à ce que tu vis en tribune. Et donc, quand j'ai commencé à faire des études en sciences sociales, je me suis dit, ça serait intéressant que je puisse étudier ce milieu-là, qui est finalement assez mal connu, où ce qu'on en dit correspond juste pas à la réalité. C'est pas que c'est des choses bien ou mal qu'on dit sur eux, c'est juste que, globalement, regarder le prisme des les supporters français par le prisme des hooligans anglais. Or, ça avait juste absolument rien à voir. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis intéressé à partir des années 90. Je travaillais sur les ultras, et un peu les hooligans en France et un peu en Europe. Et puis, depuis la fin des années 2000, je m'intéresse pas mal à la manière dont les autorités sportives et publiques gèrent les supporters.
Tu fais une distinction qui, selon moi, est fondamentale. Et d'ailleurs, quand on a commencé à préparer l'épisode, c'était une des questions que j'ai inscrites en premier sur notre document collaboratif, c'est la distinction entre hooliganisme et le mouvement ultra. Parce que ma perception, et celle de beaucoup de gens, je pense, c'est que cette distinction, elle n'est pas faite dans l'opinion publique, même chez les gens qui connaissent plus ou moins le foot. On peut parfois confondre les deux mouvements qui ne sont a priori pas les mêmes. Est-ce que dans cet esprit-là, tu peux nous dire ce qui diffère entre le mouvement ultra et le hooliganisme, et peut-être nous parler un peu plus de l'origine du mouvement ultra, d'où est-ce que ça vient et où est-ce que ça prend son origine et se développe?
En fait, le problème avec le terme hooliganisme, c'est qu'il est utilisé dans un sens très différent. Pour le grand public, depuis le drame du Hesel dont je parlais, les hooligans, c'est les supporters qui sont violents. Mmh. C'est un amalgame de tous les supporters violents. Or, les supporters ultra sont eux aussi parfois violents, donc si t'entends que les hooligans, c'est tous les supporters violents, à ce moment-là, les ultras sont des hooligans. Mais en fait, si tu regardes historiquement, tu t'aperçois qu'il y a deux styles de supporterisme assez différents, qui ont un rapport à la violence l'un et l'autre, mais qui n'est pas le même, et c'est important de les distinguer. Donc ça, pour ça, il faut prendre un petit regard historique. Dans les années 60, en Angleterre, naissent des bandes de hooligans. Alors, c'est un nom qui leur est donné par la presse et puis qui s'approprie. Donc, de supporters qui sont des vrais supporters de foot, mais qui sont, avec l'essor de la jeunesse, l'essor des bandes juvéniles à ce moment-là en Angleterre.
Le contexte social aussi de l'Angleterre à cette époque-là.
Ouais, et avec une idée de défense territoriale. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu défends ton stade et ta tribune, et quand tu vas à l'extérieur, tu essayes de montrer que tu es plus fort et de prendre le territoire adverse. Et donc ces bandes de hooligans-là sont centrées sur le soutien au club et la violence. Et au fur et à mesure que les stades ont été sécurisés, ceux qui se revendiquent hooligans, les stades sont sécurisés, tu ne peux plus t'y battre. Donc petit à petit, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, la violence des hooligans s'est écartée des stades. Ce qui donne qu'aujourd'hui, la plupart des groupes de hooligans ne vont même pas au stade. Et c'est l'archétype de ceux qui, en Pologne, en Russie, vont se battre dans des forêts ou des zones industrielles en dehors du match. Donc ça, le mouvement hooligan tel qu'il est identifié par les supporters violents eux-mêmes, c'est un mouvement centré sur la violence avec, grosso modo, aujourd'hui, des professionnels de la violence qui font des sports de combat, qui s'entraînent, etc. Le mouvement ultra, lui, est né à la fin des années 60 en Italie. Là aussi, c'est un mot qui est donné par la presse, pris par les supporters eux-mêmes et qui, finalement, est approprié par les supporters. Et là, c'est une logique un peu différente. C'est-à-dire que c'est là aussi des groupes de jeunes supporters qui se rassemblent. C'est-à-dire que dans les années 60, les jeunes supporters se mettent ensemble. Donc, en Angleterre, derrière les buts, en Italie aussi, dans les virages. Et ils forment plutôt des associations structurées qui vont soutenir leur équipe, s'impliquer dans la vie du club, s'impliquer dans la vie locale, mais comme ils sont dans une logique, le terme ultra est très clair, de rivalité avec les groupes adverses et les clubs adverses, ils peuvent passer à la violence de manière très variable selon les groupes. Mais tu as des différences entre les deux. D'un côté, les hooligans, c'est des bandes informelles, les ultras, c'est des associations. Aujourd'hui, les hooligans s'occupent plus vraiment de soutien à l'équipe, les ultras, c'est leur cause principale. Les hooligans, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de discours sur le monde du foot, alors que les ultras ont un discours critique sur les transformations économiques du football depuis les années 90, et le rapport et la violence n'est pas la même. C'est-à-dire, quand tu es journaliste ou sociologue, la difficulté, c'est qu'un hooligan veuille te parler. Une fois qu'il te parle, il te parle de violence, puisque c'est ça qui le fait triper. Quand tu parles à un ultra, c'est plus facile, parce qu'ils ont des porte-parole, des associations, etc. Mais le rapport à la violence est beaucoup plus complexe et ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, moi j'ai souvent un peu la même image, chez eux, la violence, elle est marginale et centrale, parce que tu prends dans des groupes ultra-marseillais, par exemple, tu as des milliers de membres. Sur 5000 membres, t'en as 4850 qui se sont jamais battus dans un stade, en fait. Et la violence, elle est très très rare chez les ultras. Par contre, elle est centrale en ce sens que c'est un mouvement qui ne peut pas récuser ça, qui, comme il a des origines radicales, s'est ancré là-dessus. À certains moments, il passe à la violence pour trancher les conflits, soit entre groupes ultra-rivaux, soit avec le club. On le voit par exemple quand les supporters marseillais étaient en désaccord avec Jacques-Henri Hérault. Ben, au final, ça finit par quoi ? Par une prise de la commanderie qui finalement a produit ses effets puisque le président est parti. Donc, si vous voulez, on est sur des rapports très différents à la violence. Un rapport purement offensif chez les hooligans, plutôt défensif chez les ultras. Un rapport très clair à assumer chez les hooligans et un rapport beaucoup plus ambigu chez les ultras.
Est-ce qu'il y a différents ultras ou différentes définitions en fonction de qui est un ultra et qui ne l'est pas ? Et est-ce que ces différentes définitions, c'est selon les pays ou il peut y en avoir même au sein d'un même pays ?
Alors, je ne dirais pas qu'il y ait différentes définitions, c'est-à-dire que les ultras, ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme ultras, ils font référence au mouvement historique en Italie, ils ont des valeurs qui sont partagées, mais en fait, c'est aussi un mouvement qui est pris dans d'énormes contradictions. Pour prendre deux exemples, enfin trois, allez, on va faire. D'abord, par rapport à la violence, d'un côté, ils entretiennent la violence puisqu'ils sont dans une compétition et qu'à certains moments, ils passent à la violence. D'un autre côté, ils la limitent parce que s'ils sont trop violents, ils se discréditent. Ouais. Donc, d'un côté, ils encouragent, l'autre, ils limitent. Donc, selon les groupes, il y en a qui vont être très violents, d'autres très peu. Par rapport à la taille des groupes, les ultras se définissent comme une élite. Mais en même temps, si tu es une élite à 20, 50, tu ne peux pas mettre d'ambiance. Donc, ils veulent à la fois être une élite et avoir des milliers de membres. Donc, souvent, tu as deux niveaux. Tu as le groupe ultra et puis l'association plus grande.
Qui gravite autour.
Et par exemple, quand ton équipe perd, qu'est-ce que tu fais ? Les ultras, ils revendiquent la fidélité extrême. Donc, ils doivent être derrière leur équipe. Et en même temps, ils revendiquent l'esprit critique. Et donc, si l'équipe perd, si elle joue mal, si elle ne fait pas ce qu'il faut, ils doivent critiquer. Et donc, si vous voulez, il y a des valeurs très, très communes à tous les ultras à l'échelle européenne. Par contre, selon les dynamiques locales et selon les époques, tu peux te retrouver avec des groupes qui ne sont jamais violents et d'autres qui sont violents quasiment tous les week-ends. Tu peux trouver avec des groupes absolument politisés, on en voit en Italie à l'extrême droite de manière très nette, et d'autres antiracistes, et d'autres qui s'en foutent complètement de la politique. Donc il y a une matrice commune, mais derrière il y a des manières d'être et de faire très très différentes.
Et tu parlais du fait d'être organisé. Ça c'est quelque chose d'assez identifiable chez les ultras. On a même l'impression, et l'expérience que moi j'en ai, et c'est une des raisons pour laquelle je ne me suis jamais écarté, j'ai fait quand même plus de 12 ans jusqu'au plan Le Prou, abonné si tu veux en virage Auteuil. J'ai jamais passé le pas si tu veux de me carter, de rejoindre un groupe, parce qu'il y a une notion d'hierarchie qui a l'air assez importante dans les groupes ultra, avec la prime à l'ancienneté, la prime à celui qui est là depuis plus longtemps ou qui est un fondateur ou pas. Est-ce que ça on le retrouve dans les ultras à travers l'ensemble des pays, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié aux grosses associations d'ultra qui supportent les gros clubs et qui de fait ont beaucoup de membres?
Non, ça se retrouve partout. Tu peux le schématiser de différentes manières. Selon les sociologues, on le schématise soit entre différents cercles concentriques, soit une sorte de pyramide. T'as ce que les ultras appellent eux-mêmes le noyau dur de ceux qui font vivre le groupe, qui sont là tout le temps, non seulement évidemment à domicile, mais à l'extérieur, qui participent au quotidien du groupe, qui sont le cœur. Après, t'as moi ce que j'appelle un peu un noyau mou de gens que tout le monde connaît, qui gravitent. T'as les sympathisants, et puis t'as la base de la tribune. Donc il y a différents cercles concentriques avec des individus qui vont partir de la base pour aller au cœur du truc, et d'autres qui se contentent d'avoir une position un peu marginale. Il y a des gens qui ont été des années en virage Auteuil, par exemple, sans jamais être dans le cœur des groupes, tout en étant là, éventuellement en étant connu des leaders, mais sans chercher à faire plus de 2-3 déplacements par an. Et il y en a d'autres qui, au contraire, veulent faire carrière, qui commencent à la base, qui adhèrent, qui essayent de se faire connaître, qui vont faire les tifos dans le stade avant les matchs, qui commencent à faire plein de déplacements et qui gravissent petit à petit les échelons. Donc, et ensuite il y a quand même des dynamiques très différentes. C'est des associations, dans certains groupes on est sur des logiques, le mot est peut-être un peu fort, un peu sectaire, très secret, très fermé, très hiérarchisé, et puis il y a d'autres groupes où c'est un joyeux bordel de démocratie foireuse,
celui
etc.
qui veut s'impliquer s'implique,
voilà, celui qui veut s'impliquer s'implique. Si tu veux, par exemple, sur la place des femmes, c'est vachement intéressant. T'as des groupes où les femmes participent aux réunions importantes, peuvent pas être dans les premiers rangs, et t'as d'autres groupes où il y a des femmes à des rôles importants qui peuvent être extrêmement impliqués dans le groupe. Donc il n'y a pas d'unité du mouvement ultra. Il y a une unité au sens de certaines valeurs, certains principes, mais ensuite il y a des manières de se les approprier très différentes.
Qui sont liées au club, à la région, au capot, à la personnalité des capots, qui sont liés à
tout ça. C'est-à-dire que dans une même ville, prenons un exemple très simple, on parlait de Paris. La tribune Boulogne, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de hooligans ou de fans à l'anglaise, et il n'y avait qu'un gros groupe ultra qui était les Boulogne Boys, mais là, le mode de fonctionnement des Boulogne Boys, qui était un groupe ultra, c'était pas celui des Supra Auteuil. Mais si on regarde la tribune Auteuil, c'est quand même assez exceptionnel. la tribune Auteuil, entre guillemets, des années, j'allais dire historique, des années 90-2000, les Lutèce Falco et les Supra Auteuil, ils sont dans la même tribune. Il y en a un qui est plutôt à gauche, l'autre plutôt à droite de, par rapport au but. Mais c'est des manières d'être et des manières de faire complètement différentes, des populations différentes.
Et les Tigris en bas.
Il y a les Tigris en bas, mais alors là, si on rentre sur les Tigris, après on arrive sur des trucs super compliqués. Et voilà, donc on se retrouve avec, dans la même ville, selon la, la dynamique, selon les gens qui sont à la tête, selon les membres, avec des logiques de fonctionnement très, très différentes.
Au sein d'un même virage, quoi.
Au sein d'un même virage, ouais.
Est-ce que tu as un profil type de l'ultra? La raison pour laquelle je te pose la question, c'est que, alors c'est plus un film qui tend vers la culture hooligan, hein, mais c'est ce fameux Green Street, le film, j'ai pas le nom en français.
Green Street Hooligan.
Ouais, mais c'est le film avec Elijah Wood sur les supporters de West Ham, où dans la typologie de personnes qui sont dans ce groupe, il y a un pilote d'avion, il y a un mec au chômage, il y a un mec qui travaille dans une banque. C'est-à-dire que le message, en gros, sous-jacent du film, c'est de dire le mouvement, en fait, il est à tout le monde et vous retrouvez tout type de personnes. Est-ce que l'observation que tu en fais, c'est que, en fait, non, par exemple, en France, c'est pas si divers que ça, et il y a une question d'âge, de CSP, de provenance sociale, où effectivement, c'est un mouvement où tu retrouves des gens d'un peu partout. Alors, moi, j'ai mon avis sur la question, mais c'est plutôt le tien qui m'intéresse.
Je pense qu'il y a une diversité beaucoup plus grande chez les ultras que chez les hooligans, parce que les hooligans, il y a quand même une passion commune, c'est la baston. Si t'aimes pas te battre, tu vas pas dans un groupe hooligan. Par contre, tu peux être ultra, comme je disais tout à l'heure, sans jamais être violent. Et en fait, les centres d'intérêt sont très différents. T'as des ultras qui sont dans le groupe parce que c'est ce groupe-là et cette tribune-là qui soutient le plus activement l'équipe. T'en as d'autres qui sont passionnés des chorégraphies, qui vont te faire des trucs extraordinaires, fantastiques.
D'animation, enfin de
tifo, etc. Il y en a d'autres qui aiment la dimension associative, tout ce qu'on va faire, de solidarité dans la ville, comment l'association va s'impliquer. Il y en a qui aiment écrire dans le magazine du groupe. Il y en a d'autres qui aiment le discours critique sur le monde du foot. Il y en a d'autres qui aiment juste se bourrer la gueule avec les copains un week-end sur deux, ou tous les week-ends. Donc il y a des motivations qui sont très différentes. Et du coup, déjà, il n'y a pas de profil type d'ultra, parce que tu peux être ultra de manière très différente. C'est-à-dire, dans un même groupe, tu as des gens qui ne font pas du tout les mêmes choses. Il y a une base commune. Hein, si tu ne soutiens pas ton équipe, si tu ne vas pas au stade, si tu ne l'encourages pas, tu n'es pas ultra. Mais par contre, après, il y a des pratiques qui sont relativement différentes. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et donc, en termes de recrutement social, on a une assez forte diversité. Les classes les plus privilégiées sont sous-représentées.
Ah ouais.
Moi, une fois, j'avais essayé de faire travailler. Moi, je suis enseignant dans une grande école. Il y a quelques temps, j'avais essayé de faire travailler des étudiants sur des ultras étudiants en classe prépa ou en grande école. J'en connaissais certains, mais on a galéré pour en trouver. Donc là, on est sur une élite sociale, puisque globalement, les jeunes qui sont en prépa, en grande école, il y a un recrutement social très particulier. Par contre, dans le milieu ultra, tu te retrouves avec beaucoup de classes populaires, beaucoup de classes moyennes, donc ça fait quand même une diversité sociale très forte. Hein. Tu as 80-90% de la société française qui se retrouve au stade. Et c'est un creuset important, c'est-à-dire que, en fait, historiquement, il y avait les tribunes populaires où c'était moins cher, les tribunes un peu plus chères où il y avait une population un peu différente. À partir du moment où, comme le dit l'ethnologue Christian Bomberger, les tribunes derrière les buts, en fait, ça devient au départ des juveniles. Dans les années 80-90, c'est des jeunes qui s'y mettent. Alors maintenant que les jeunes ont vieilli, il y a aussi des vieux dans les groupes ultra, mais...
mais c'est les jeunes d'hier.
Voilà, c'est les jeunes d'hier, donc c'est un brassage social qui est assez important et qui permet à des jeunes de différents milieux sociaux de se rencontrer. Et finalement, c'est relativement rare dans notre société. Si tu regardes bien, il n'y a pas tant d'espace où des jeunes qui ont un métier, qui n'ont pas de métier, qui sont étudiants, qui ont des profils complètement différents se rencontrent. Et moi, perso, qui suis issu d'un milieu plutôt petit bourgeois, après j'avais rencontré, l'époque était la même, enfin j'étais dans des écoles très, très mélangées, quand je jouais au foot, je rencontrais des gens très différents, on n'était pas encore à l'époque sur de telles distances sociales entre les groupes, mais j'ai rencontré au stade des gens que je pense j'aurais pas rencontré sinon, parce que tout le monde prend pas quand même une inscription au foot, enfin tu vois, et donc ouais, c'est un creuset, pour moi il y a une diversité, enfin je sais pas, je pense que c'est ton expérience aussi.
C'est complètement mon expérience, et j'en parlais avec Edouard d'ailleurs dans l'une de nombreuses discussions en dehors du podcast, le stade de foot, mais de manière générale, hein, le stade de foot professionnel, le stade de foot du FC Montmorency où jouent mes enfants, c'est le seul endroit où tout le monde se rencontre. Et il y a très peu d'autres expériences comme ça. Je suis désolé, tu parlais de pas discrimination, mais
de distance sociale, de ségrégation entre les...
Mais tu vas au musée, tu vas retrouver une certaine CSP, au théâtre pareil, au foot, non. C'est là.
Tu peux l'avoir au cinéma.
Tu peux l'avoir
aussi. T'as un type de film.
Ça devient devient cher quand même.
Ouais, ça devient très cher. Et t'as un type de film aussi en fonction du type de film que tu vas voir. Mais le cinéma devient très très cher, ouais. C'est vrai.
Mais il y a très peu d'expérience. Le sport de manière générale, mais le football encore plus. Parce que c'est le sport le plus populaire de France et dans le plus. C'est là vraiment où tu as une collision de l'ensemble des catégories des CSP françaises et là où tout le monde se parle, se connaît, échange. Et tu le vois au stade, dans les tribunes, que ce soit les tribunes d'Ultra derrière les buts ou le reste des tribunes. Je mets de côté les loges, etc., qui sont des espaces vraiment différents et qui sont dédiés à une expérience professionnelle. Donc c'est pas forcément là que tu rencontres les gens pour un échange social. Mais c'est pareil quand tu accompagnes ton fils le matin, le samedi matin et qui va jouer au foot, bah tu vas avoir les parents d'un peu tout le monde, et les parents d'un peu tout le monde, c'est des gens qui vivent dans la même ville mais qui se côtoient pas forcément en dehors du terrain de foot.
Moi je suis pas si optimiste que toi sur la pratique du foot parce que justement ce qu'on constate sur la période récente c'est qu'il y a un peu moins de diversité. Dans la pratique amateur. Moi, quand je jouais au foot dans les années 80, quand j'étais ado, t'as effectivement de tout. Là, t'as des stratégies aussi d'évitement de certaines catégories sociales par rapport au foot ou par rapport aux certains clubs de foot. T'as une survalorisation aussi de certains jeunes de milieux populaires en disant que c'est par le foot que je vais faire carrière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a finalement plus de diversité sociale dans les tribunes. Alors après, ça dépend quel club de foot, mais dès que t'arrives à un petit niveau de volonté de performer au foot, j'ai l'impression que c'est moins divers que quand j'étais jeune, moi.
C'est intéressant que tu dis ça. Après, c'est peut-être dû à mon évolution sociale à moi. Moi, j'ai le regard inverse parce que effectivement, je viens d'un endroit très populaire et je jouais dans un club très populaire. Mmh. Et j'avais l'impression, effectivement, que c'était via le foot que j'avais des connexions avec les enfants d'autres backgrounds sociaux parce que le foot, tout le monde s'y rencontre, alors que l'école, c'est sectorisé, ouais, etc. Et quand je vois aujourd'hui l'équipe de mes enfants, j'ai l'impression inverse. Mais
t'as quelle impression maintenant avec...
J'ai l'impression que la diversité sociale du foot, c'est-à-dire de l'équipe de foot, je la retrouve beaucoup plus que je ne la retrouvais
à l'époque où t'étais.
Je trouve que c'est encore plus marqué. C'est-à-dire que
ça dépend peut-être des endroits où tu es.
Ça dépend des endroits, parce que moi, je rejoins de mon point de vue, qui vient d'un endroit plus aisé, d'une famille aisée. Dans mon entourage, l'image du foot vis-à-vis des enfants. Enfin, je sais que ma compagne ou des gens que je peux rencontrer ne veulent pas inscrire leurs enfants au foot parce qu'ils ont une mauvaise image du foot. Et donc, les gens d'un point de vue des CSP+, plutôt. Et donc, ils veulent pas même sur le foot féminin.
Mais c'est intéressant que les chiffres...
Il faudrait que je retrouve les données, mais il me semble bien que ce que je dis est pas déconnant.
Alternative football. Alternative football.
Est-ce qu'il y a des données ou est-ce qu'il y a eu des études pour connaître, quand on t'a demandé un peu la typologie type d'ultra, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été poussées ou c'est très difficile d'avoir des retours pour que les ultras répondent à des questionnaires et donc c'est assez difficile et assez flou?
Moi j'avais fait ça dans les années 90, j'ai fait passer dans différents groupes, auprès des noyaux de différents groupes, je ne me souviens plus, 300-400 questionnaires et globalement ce qu'on voyait c'était cette diversité sociale-là, des classes populaires et des classes moyennes, avec une sous-représentation des catégories les plus favorisées. Donc ça fait quand même une très forte diversité sociale. Après, il y a eu différents travaux à différentes époques sur le public du stade. Et ce dont on a l'impression, d'après les dernières données, c'est que le stade, alors avec 20 000 guillemets, hein, sans bourgeoise un peu, c'est-à-dire
partout.
Un peu partout. On n'est pas du tout sur un phénomène à l'anglaise, hein, je dis pas ça, mais en gros, la part des classes moyennes et des classes supérieures dans le stade semble, d'après les données qu'on a, un peu plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 80-90, sans que ce soit non plus une dérive abyssale. On n'a pas connu en France, à l'exception de Paris, une augmentation du prix des places telle que celle que l'Angleterre a connue. Et donc, on retrouve toujours toutes les catégories sociales dans les stades.
Mais avec donc pour l'Angleterre, j'ai longtemps habité, une volonté relativement assumée.
Ça fait partie de leur mode de gestion du hooliganisme.
De nettoyer socialement les stades et de faire en sorte que le prix soit prohibitif pour que la classe populaire puisse
aller. Alors, ça ne s'est pas fait exactement comme ça, parce que ça aurait été cynique et ça n'aurait pas été possible. Mais en fait, le football anglais, alors pour ceux qui regardent aujourd'hui le football anglais, il faut imaginer ce que c'était le football anglais dans les années 80. Quoi. C'est-à-dire des bourrins qui envoient des grands ballons devant, aucun joueur étranger. Et puis, moi, j'ai fait des matchs au tout début des années 90 en Angleterre, des stades insalubres, t'as pas de ticket, tu rentres avec un tourniquet, enfin des trucs dégueulasses. Et dans les années 90, 90, les Anglais, après le drame de Hillsborough à Sheffield, là où les supporters de Liverpool sont mal aiguillés par la police et s'entassent dans une partie de tribune, ouais. On a 96 morts, ils ont complètement repensé leur football, rénové les stades pour l'Euro 96 avec des stades beaucoup plus accueillants. Et c'est là aussi qu'ils ont mis un gros coup sur la lutte contre l'hooliganisme pour cibler les hooligans et les écarter des stades. Et c'est aussi le moment d'émergence de la Première Ligue.
Complètement.
En 92. 92. Et donc finalement, les années 90, c'est une transformation du football anglais, un nouveau foot anglais, qui devient le championnat très rapidement le plus populaire à l'échelle mondiale, avec les meilleurs joueurs. C'est quand même fou quand tu penses au football anglais des années 70-80. Et finalement, le prix des places augmente parce que les stades sont de meilleure qualité, parce qu'il faut rentabiliser les investissements. Les clubs sont propriétaires de leur stade pour la plupart d'entre eux. Et puis ensuite, y a une concurrence entre clubs pour attirer les meilleurs joueurs. Donc tu continues à faire augmenter le prix des places pour avoir plus d'argent, pour pouvoir attirer de meilleurs joueurs. À partir du moment où tu as des très bons joueurs, tu peux augmenter le prix des places puisque le truc est attractif. Et donc tu te retrouves dans une spirale qui est finalement une spirale d'un certain point de vue vertueuse, en ce sens que tu fais plein de chiffres, les gens viennent au stade. Le revers, c'est qu'il y a une vraie gentrification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes de Liverpool, ils peuvent aller voir 2-3 matchs par an, ils peuvent plus être abonnés, souvent les gens prennent des abonnements à plusieurs, et tu as une éviction très claire des catégories populaires, mais ça n'a pas forcément été pensé comme ça au départ. Non, si tu veux, à partir d'un moment, ça s'est mis en place et ils ont assumé le truc. Quoi.
C'est vrai que mon raccourci était un peu rapide, c'est le principe d'un raccourci, mais effectivement, ça accompagne le développement de la Première Ligue effectivement à partir de 92, où tu as une structuration du football anglais qui est faite pour en faire une industrie et effectivement créer le championnat le plus attractif du monde. Ça passe par effectivement les tribunes, ça passe par l'attrait et l'envie de recevoir des joueurs, ça passe par ne serait-ce que tu vois des cahiers des charges pour les stades. Alors tu disais ils ont bénéficié de l'euro, mais même les stades qui n'étaient pas ouais. sélectionnés pour faire partie de l'euro, sur la qualité de la lumière, sur la pelouse, ils ont beaucoup travaillé sur les pelouses. Donc t'as eu cette volonté de tirer, je sais pas si c'est tirer vers le haut, mais en tout cas de réformer le football anglais. Et l'une des questions centrales, c'était la gestion du hooliganisme, et le fait de faire un meilleur produit entre guillemets football anglais a tendu vers le fait que c'est du coup plus cher d'aller au stade, et de fait les catégories populaires ont moins accès au stade.
Question qui peut peut-être être bête, mais dans quelle mesure le hooliganisme a permis à la Première Ligue d'être la Première Ligue et d'essayer de se penser comme produit? Enfin, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont eu l'hooliganisme et qu'ils sont tombés tellement bas dans la gestion de leurs tribunes que finalement ils ont eu cette volonté d'être le meilleur championnat, ou c'est peut-être totalement...
C'est pas complètement déconnecté, en ce sens que le nouveau football anglais, comme on dit, qui apparaît dans les années 90, il a deux piliers. L'un des piliers, c'est la lutte contre l'hooliganisme pour sécuriser les stades, pour que les gens aient envie d'aller au stade. C'est jusqu'au point que les gens s'assoient tous dans les stades anglais. Alors aujourd'hui ça bouge un peu, mais dans les années 90-2000, t'es assis partout, quoi. Et l'autre pilier, c'est créer ces nouveaux stades. En fait, le rapport Taylor, qui fait suite au drame d'Hillsborough, il dit, on a un problème avec la violence des hooligans qui est endémique, et donc ça il faut la traiter, mais on a aussi un problème, c'est-à-dire que nos stades sont insalubres, on accueille mal les gens, et en gros, si je schématise, on traite les gens comme des animaux, faut pas s'étonner que certains se comportent comme tels. Et donc, le nouveau football qui émerge d'abord en Angleterre et qui cherche à émerger en Europe ensuite, il se base sur deux piliers forts, la lutte contre l'hooliganisme pour sécuriser et les nouveaux stades pour attirer un public plus consommateur qui va plus dépenser dans le stade. Et sur les Allemands en 2006, la Coupe du Monde 2006, c'est aussi ça, on rénove complètement les stades, on fait des stades clean, à la différence que les Allemands ont toujours conservé des places debout derrière les buts, qu'ils ont toujours cherché à encourager un supporterisme actif beaucoup plus que les Anglais.
Oui, il y a une valorisation de la culture populaire beaucoup plus importante, pense, en Allemagne. Tu as même des clubs dont c'est les fondements, je pense. Oui. On y reviendra.
Mais t'as aussi l'Union de Berlin, même.
Complètement. Mais t'as aussi un phénomène qui est, je pense, très froid. Il y a ces considérations qui sont liées au drame et au besoin pour que l'industrie du football anglaise simplement continue d'exister, de réformer. Mais t'as aussi, traditionnellement dans les affaires, les Anglais sont proches des Américains parce que déjà ils parlent la même langue. Donc c'est un peu la porte d'entrée des Américains pour l'Europe. T'as aussi une observation de ce qui se passe dans les grandes lignes américaines, la manière dont, au début des années 90, la NBA commence à se transformer. Et il y a une compréhension du volet industrie-business du sport chez les Anglais, et qui ne peuvent appliquer qu'au seul sport qui a dimension internationale chez eux. C'est le football. C'est le football, le cricket étant un sport quasi local, enfin pas quasi, qui est complètement...
Le rugby n'a pas du tout la même audience que le foot.
Que le foot en Angleterre. Donc je pense que ces deux phénomènes se rencontrent, et de ça naît la Première Ligue.
Du coup, on va en venir un peu au cœur du sujet qui a amené à t'inviter aujourd'hui. C'est les événements qui sont passés en septembre et qui ont pas mal titillé. En tout cas, c'est suite à la convocation des joueurs par les virages, les Bad Gones à l'OL après la défaite contre le PSG. Et le virage sud, je crois, Marseille, vous me corrigez si je me trompe,
oui, c'est ça.
Suite au match nul concédé face à Toulouse, 0-0 début septembre. Édouard était un peu choqué du fait que les joueurs soient convoqués. Donc notre question, est-ce que les ultras, quel est le véritable pouvoir des ultras? Tu vas me dire que ça dépend des clubs, mais est-ce que c'est un pouvoir avéré, fantasmé? Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir au sein des clubs? Et qu'est-ce que ces convocations raconte du football et des rapports entre les clubs et leurs tribunes?
Et j'ajouterais une sous-question, parce que
ma
spécialité c'est les questions à tiroir. Et est-ce que c'est forcément un contre-pouvoir, le pouvoir des ultras? Et je te laisse te débrouiller avec tout
avec
ça maintenant.
Avec ces cinq questions.
Vas-y, grand. Enchaîne. Alors, je resterai dans le processus historique, parce que ça va être dans la continuité de ce qu'on a dit, et ensuite on pourra peut-être répondre de manière plus précise. En fait, donc à partir du moment où les groupes ultras deviennent à l'échelle européenne très puissants et deviennent le 12e homme, ils se sont affirmés un peu comme un acteur indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les clubs, on le voit, le PSG à un moment, ils vendaient toute leur place. Mais il n'y avait plus d'ambiance parce qu'il n'y avait plus d'ultra, et c'est le PSG lui-même qui a dit non, mais c'est pas possible, il faut que les ultras reviennent parce que sans ambiance on n'est pas crédible. Et donc aujourd'hui les ultras sont un indispensable 12e homme, d'une part parce que le monde du football lui-même considère qu'il a besoin de gens pour les soutenir, et d'autre part parce qu'il y a l'envie, l'idée, si on veut vendre le spectacle, il faut qu'il y ait de la ferveur en tribune, et donc c'est un argument de vente finalement des tribunes animées. Donc il y a déjà ce point-là. En tant que 12e homme, les ultras entre guillemets ont du pouvoir parce qu'on a besoin d'eux. Le deuxième point historique, c'est que dans les années 90, on a commencé à l'évoquer, le football change. Je renvoie au bouquin de Jérôme Latta sur trois décennies de foot et ce que le football est devenu, qui vient de sortir récemment. Dans les années 90, donc, il y a la Première Ligue, puis la Champions League, le fait que petit à petit, les meilleurs clubs peuvent jouer cette compétition. Il y a l'arrêt Bosman, donc un arrêt européen qui permet aux meilleurs joueurs communautaires de jouer dans les meilleurs clubs, puisqu'il n'y a plus de quota de joueurs communautaires dans les clubs européens, et il y a l'essor des télévisions à péage qui vont mettre un fric fou pour avoir les matchs et pour pouvoir attirer des abonnés. Et donc dans les années 90, le football devient vraiment un business. C'est là que des investisseurs du monde entier rentrent dans le foot, et qu'on en revient à ces nouveaux stades qui sont des centres de profit. Finalement, ils attirent du public, mais ça doit être des centres de profit au quotidien. Il y a des mégastores, tu crées des activités au jour le jour. Et du coup, ça fait une transformation assez forte du football. C'est-à-dire, dès les années 60, les premiers historiens et sociologues ont expliqué l'essor des groupes de supporters derrière les buts par un phénomène de réappropriation du club. C'est-à-dire qu'au départ, les supporters sont dans le cœur du club, et puis au fur et à mesure que ça devient professionnel, les supporters deviennent un peu écartés aux marges, et en s'investissant dans les tribunes, finalement, ils se réapproprient un peu leur passion dont ils ont été dépossédés. Et dans les années 90, le changement est radical. C'est-à-dire que les joueurs changent tout le temps, mais même les dirigeants changent. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des dirigeants qui sont dans un club un jour, dans un autre club le lendemain. Et du coup, à l'échelle européenne, les associations de supporters, et particulièrement les groupes ultras, se sont positionnés comme les dépositaires de l'identité et de l'histoire de leur club. Et ils cherchent à se faire reconnaître comme ça, comme des acteurs du club, mais aussi un peu comme les garants de son histoire. Et du coup, finalement, on se retrouve dans des conflits ou des tensions pour savoir à qui appartient le club. Le cas extrême, c'est Nantes, et c'est assez intéressant parce que c'est un cas d'école. D'un côté, Valdemar Quita dit le club, c'est à moi parce que c'est moi qui mets l'argent et c'est moi qui le fais tourner. Et de l'autre, les associations de supporters, ce qui dépasse très largement les groupes ultras, disent non, le club, c'est nous, parce que nous, on est là comme nos parents et nos grands-parents l'étaient, parce que nous, on défend l'identité du jeu à la nantaise, du football à la nantaise, et parce qu'on essaye de faire perdurer une tradition que vous êtes en train d'oublier, à laquelle vous tournez le dos. Et donc, si on veut revenir sur ces convocations de joueurs, j'ai pas oublié ta question de départ, il faut bien voir ça, c'est-à-dire que les ultras veulent se positionner comme un acteur important du club qui a son mot à dire. Et donc, ça a des côtés positifs et négatifs. Les côtés positifs, c'est que, bah, effectivement, à certains moments, ils peuvent être une force de rappel. On reviendra sur la notion de contre-pouvoir, mais si le club part dans une dérive qui éloigne trop de son territoire, ou si les dirigeants ou les joueurs font n'importe quoi, ils peuvent être là et dire, bon, ben, attention. Ça peut être intéressant aussi que quand des joueurs enchaînent les mauvais résultats, les supporters viennent discuter avec eux en disant, bah, voyez, nous, ça nous touche. Bon, vous aussi, sans doute, mais nous, ça touche toute une communauté, donc il faut que, peut-être pour nous, vous vous ressaisissiez. Donc, que les supporters et les joueurs échangent et que les supporters puissent dire qu'ils sont pas contents, ça pose pas véritablement de problème. Ce qui va poser problème, ça peut être la forme. La forme, là, des convocations, ça fait un peu l'enfant qui a fait un mauvais truc à l'école et qui est puni comme au milieu du XXe siècle, mis au piqué. Il y a une dimension publique qui est un peu malsaine. Par rapport à la question du pouvoir des ultras, moi, je réponds souvent un peu de côté, c'est-à-dire que d'une part, comme tu l'as dit toi-même, ça dépend vraiment d'un club à l'autre, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les supporters et les ultras sont un acteur du football. Ok. Donc maintenant, la question, c'est définir quel type d'acteur c'est et quelle relation il a avec les autres acteurs. Et quand les rapports entre les ultras et les dirigeants sont des rapports de force et des rapports de pouvoir, quel que soit le pouvoir de l'un sur l'autre, ça c'est malsain. Ouais, quand c'est des rapports de force comme ça a pu l'être à Marseille à certains moments, ça c'est malsain. La relation fait que on est conscient que les supporters sont importants, qu'ils peuvent discuter avec les joueurs, qu'ils peuvent faire perdre certaines critiques s'ils le font de manière constructive, c'est beaucoup plus sain. Donc moi personnellement, à titre très personnel d'amateur de foot, je suis pas fan de ces moments où les joueurs vont tête basse dire devant la tribune, se faire sermonner par un type avec un micro. Par contre, que après le match, les représentants des supporters puissent dire bon, attendez, là, c'est pas possible. Ça, je l'entends beaucoup plus.
C'est ça le point. C'est-à-dire que la remontrance, si tu veux, du supporter ultra, elle a toujours existé. On en parlait avec Edouard la dernière fois rapidement, mais tu vois, au camp des loges, dans les années 90, début des années 1000, tu avais souvent ce genre de choses. Je trouve que la nouveauté, c'est l'aspect théâtral.
C'est la mise en scène.
Mais qui est. Et le fait des supporters qui décident de prendre la parole à ce moment-là, et aussi le fait du diffuseur qui, pour lui, en termes de contenu, a quelque chose d'assez riche pour prolonger un peu le match et garder les gens. Donc je pense que c'est la rencontre de ça, mais je trouve que c'est aussi quelque chose de très actuel. C'est-à-dire que on a évolué vers une société qui aime le show et l'entertainment par-delà le sport. Et je trouve que c'est simplement une nouvelle manière d'exprimer un mécontentement qui a, je pense, toujours été présent, mais qui était exprimé de manière différente avant.
Et dans quelle mesure cette scène n'a pas eu lieu, ou peut-être déjà elle a déjà eu lieu dans le passé, mais je pense qu'il y a la question du fait que le diffuseur à l'époque, à la fin du match, il partait, donc tu voyais pas forcément ces images-là, et maintenant il y a aussi l'effet d'écho avec les réseaux sociaux où ces images sont reprises, je pense. Mais dans quelle mesure c'est aussi lié au fait que avant il y avait peut-être beaucoup plus de rencontres organisées par les clubs entre les supporters et les joueurs, et que maintenant ça existe de moins en moins. Est-ce que c'est une question que j'ai pas d'idée derrière, mais est-ce que tu sais si ça ce qui se faisait. Moi, j'ai toujours su que ça se faisait. Mais est-ce que ça se fait de moins en moins, ce type de rencontre ?
Non, ça se fait pas de moins en moins. Là, ça dépend très fortement des clubs et ça dépend des dynamiques. Mais globalement, les joueurs rencontrent régulièrement les responsables d'associations de supporters. Okay. Soit c'est organisé par le club, soit les associations de supporters viennent à l'entraînement ou après un match. Donc non, ça se poursuit. Il y a des dynamiques plus ou moins positives selon les clubs. Mais après un match ou en dehors des matchs, etc.
Mais pas des rencontres, parce que moi je me dans Sunderland Till I Die, le documentaire, tu vois carrément où ils se rencontrent au pub. Enfin, c'est pas au pub,
oui,
mais des trucs de face à face, comme une conférence de presse.
Tu peux avoir des face à face, mais qui se fait pas de manière impromptue, puisque les joueurs fréquentent plus les mêmes lieux que les supporters, qui est organisé par le club.
Oui, c'est ça. Là, c'était organisé par le club Sunderland Till I
Die. Non, ça existe encore.
Après, le côté pub, un aparté sur ça, tu vas le retrouver aussi dans Wrexham. Il y a aussi un documentaire parce que ça a été racheté par Ryan Reynolds son nom m'échappe, mais un autre acteur, mais oui, de fait moins connu. La culture du pub et du foot, je pense
c'est Angleterre.
On peut faire un épisode aussi dessus. Et là, mais je pense que Nicolas me corrige si je me trompe, ça dépend aussi de comment ton club est structuré. Tu vois, à quel point t'as un référent supporter, à quel point il a l'oreille des décideurs, à quel point il est capable il a l'oreille des joueurs. Parce qu'on parle d'avoir l'oreille du groupe ultra, c'est une chose, mais le référent supporter, pour qu'il ait un point interne, c'est pas forcément gagné, ça dépend de qui il est, ça dépend de qui l'a placé, ça dépend de qui peut activer au-dessus. Donc je pense que pour le coup, ça a trait à l'organisation. Et on a en face effectivement des groupes qui sont plus ou moins bien organisés chez les Ultras. On a tendance, enfin, j'ai tendance à penser que plus le groupe est grand, mieux il est organisé parce qu'il a simplement plus de gens, donc potentiellement plus de compétences. En face, qu'est-ce que tu mets ? Et c'est peut-être là qu'il y a du progrès, entre des pistes de l'amélioration. Est-ce qu'il n'y a pas une... Et Nicolas, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas une organisation optimale à trouver chez les clubs pour réussir à bien parler au groupe d'Ultra ? On a l'impression, on reviendra sur le côté répressif parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais on a l'impression que le responsable des supporters, c'est un peu un gestionnaire de risque. C'est-à-dire qu'il est simplement là pour essayer de garder une forme de contrôle sur ce qui va passer, avoir suffisamment d'informations pour qu'on contrôle le potentiel débordement. Alors que le potentiel qui est lié à l'envie de s'impliquer des ultras, je pense qu'il est bien plus grand que ça. Est-ce que c'est ce que tu observes ? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des clubs qui travaillent bien et qui ont une appréhension de la question qui est en fait beaucoup plus saine, à savoir on a envie de construire avec les ultras plutôt que d'essayer de gérer un peu le chaos ?
Ben, je vais essayer de répondre aux différents points. Déjà sur les convocations.
Je t'avais dit, c'est ma spécialité.
Non, mais il y a des choses qu'on a dites avant. Les convocations là, qu'on a vues en septembre, c'est des trucs très anciens en Italie, dans les Balkans. Quand une équipe a mal joué, elle est convoquée au pied de la courroie en Italie. Et parfois, on demande aux joueurs d'enlever le maillot parce qu'ils sont indignes de le porter. On a des scènes un peu marquantes où les chefs des supporters vont enlever le maillot des joueurs et leur dire vous n'êtes pas dignes de porter ce maillot-là. Donc on a des trucs vachement plus violents.
T'avais une Alex Nerko qui avait lancé son maillot en virage après un match au PSG, on l'avait rendu.
Ouais. Enfin, t'as des trucs beaucoup plus violents que ce qu'on a vu à Lyon ou à Marseille en septembre dans le foot européen. Ensuite, je sais plus lequel en a parlé, mais on parlait de la dimension spectacle, de la dimension show. Il y a un truc qui est vachement marrant, je trouve, avec les ultras, c'est qu'ils sont très très critiques du football business, du nouveau football, etc. Ils défendent un football populaire. Et en même temps, les ultras, ils sont complètement en phase avec cette spectacularisation et cette théâtralisation du foot. C'est-à-dire qu'ils produisent un spectacle dans les tribunes qui en soi attire les caméras, qui en soi produit des choses, donc ils produisent des événements en dehors du match, en plus du match, avant le match, à la mi-temps, après le match ils font encore des trucs, et donc ils font partie complètement de ce football spectacle dans leur manière même d'être supporters. Donc là déjà il y a aussi une contradiction entre critiquer un football et revendiquer un football populaire dans lequel finalement les choses se passaient complètement différemment de eux ce qu'ils font en tribune. Ensuite sur la structuration des clubs, alors sur le référent supporter, je pense qu'il faut peut-être préciser pour certains auditeurs, le référent supporter, c'est un salarié du club qui est chargé de la relation avec les supporters, particulièrement avec les associations de supporters. Et effectivement, c'est un rôle qui s'est développé en France depuis 5-6 ans, qui est un rôle important et qui a les deux facettes. Il a un peu la facette de prévention des risques, mais il y a dans chaque club un directeur sûreté et sécurité, c'est surtout lui qui a cette casquette-là. Mais c'est plutôt une facette de comment je vais pouvoir développer le supporterisme de manière positive dans mon club. Comment j'échange avec mes supporters, comment j'anticipe éventuellement certains problèmes. Et donc là, oui, la situation est très différente selon les clubs, selon les époques. Celui qui est référent supporter au PSG se positionne pas toujours pareil. Il n'y a pas toujours les mêmes relations avec ses groupes de supporters. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que quand tu travailles avec tes associations de supporters, c'est pas uniquement pour réduire les risques, c'est pour réduire les risques d'incidents, mais c'est aussi une vision positive de comment je développe mon public, comment j'attire une base de supporters locaux. Parce que là, on parle du PSG, attirer des gens, même s'ils augmentent le Parc des Princes à 60 000 places, ils les trouveront toujours. Mais certains clubs de taille plus modeste, ou des clubs qui ont maintenant des très très grands stades, comme l'Olympique Lyonnais par exemple, quand tu es en queue de classement, c'est moins évident. Donc tu as tout un travail à faire auprès de ton tissu local et auprès de tes associations pour remplir ton stade. Donc le référent supporter, il a un peu ses deux casquettes, et selon sa personnalité, selon l'importance qu'il a dans le club, selon les marges de manœuvre qu'il a, il réussit plus ou moins bien à jouer son rôle. Mais au-delà de lui, c'est effectivement, tu as tout à fait raison, comment le club se structure et qu'est-ce qu'il cherche à faire. Est-ce qu'il a une vraie politique de relation avec ses supporters, ou est-ce qu'il fait du coup par coup C'est-à-dire que la question que tu posais, Maxime, sur trop de pouvoir, je reviens à ma réponse. C'est-à-dire que tant que club et association de supporters cherchent à savoir qui c'est qui a la plus grosse, qui c'est qui a le plus de pouvoir et à s'imposer sur l'autre, tu n'auras jamais des trucs très sains. si au contraire les uns et les autres arrivent à considérer qu'ils sont des acteurs importants du foot à des rôles différents et que bah, ils peuvent être complémentaires, ils sont pas forcément toujours d'accord hein, et puis même c'est plutôt sain de pas être toujours d'accord mais au moins que on sache un peu quel est leur cadre d'action. Et la grosse difficulté actuellement, c'est un peu définir le rôle des supporters. Symboliquement, la loi française a fait entrer les supporters dans le code du sport en 2016. Ils sont reconnus comme un acteur du sport. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop quel type d'acteur. Et tu as des slogans toujours qui reviennent toujours sur les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, les supporters supportent. Et de l'autre côté, les supporters qui disent ben, les joueurs et les dirigeants passent et les supporters restent. Et donc, si on en reste dans ce discours un peu d'opposition les uns aux autres, ben, effectivement, tu vas chercher à avoir le plus de pouvoir et ce n'est pas très, très positif. Si tu te dis que, ben, il faudrait sortir de cette vision un peu paternaliste, que même les joueurs, ils n'ont rien à dire et qu'ils jouent comme des bourrins et que les supporters rigolent comme des bourrins, ce n'est pas forcément ça le football que je promeux. Si on va sur une idée, au contraire, où on reconnaît une vision un peu plus, entre même les guillemets, hein, démocratique du foot, où toutes les parties prenantes peuvent s'impliquer, des choses qui sont dans l'ADN, finalement, de SoFoot, de voir une vision qui n'est pas uniquement une vision commerciale, industrielle, bah, là, ouais, les supporters ont un rôle à jouer, mais à condition que ce soit un rôle relativement clarifié.
Est-ce que depuis l'arrivée des référents supporters, est-ce qu'il y a un cas ou des bonnes pratiques d'un club où ça se passe bien, où le fait qu'il soit arrivé il y a 5-6 ans, on a vu des vraies améliorations et ou toi, des bons exemples, quoi?
Oui.
Tu peux pas dire les noms, mais de ton point de vue, tu peux pas donner les noms.
Bah,
mais...
j'ai pas envie parce que voilà, c'est pas parce qu'après j'ai oublié
les
gens.
Tu peux pas donner les bons points et les mauvais points, mais
non, mais oui, il y a vraiment.
Comme type de pratique alors qu'ils ont mis en place, il y a quoi?
Bah, il y a vraiment dans des clubs des référents supporters qui sont reconnus. Alors, ils sont pas toujours bien payés, c'est un gros problème, mais voilà, il faudrait qu'ils aient un statut important, qu'ils soient tous en CDI, avec un revenu suffisant, qu'ils puissent faire le boulot, qu'ils soient pas obligés de faire trois ou quatre tâches en même temps. Et ensuite, derrière, il faut qu'ils forment un binôme, voire un trinôme, un binôme efficace avec le directeur sûreté et sécurité, voire un trinôme avec le stadium manager. Donc, s'ils bossent ensemble, si chacun a ses compétences et son cercle, ça fonctionne bien. Et ensuite, localement, ça va dépendre aussi très fortement de la manière dont les autorités locales, notamment la préfecture, les entend. C'est-à-dire, il y a certains référents supporters, quand ils viennent en réunion de sécurité, on les écoute parce qu'on sait qu'ils disent la vérité, qu'ils donnent les infos qu'ils ont, ils ne sont pas là pour embobiner. Et quand ils disent sur un match, il y a un risque, on sait qu'il y a un risque. Quand ils disent sur tel match, ben non, effectivement, on vous a fait remonter, la division nationale de lutte contre le hooliganisme a dit que c'était dangereux, mais ils disent, non, ben, moi j'ai des échos qui me font dire que non, vous inquiétez pas, si on anticipe bien, les choses se passeront bien. S'ils sont écoutés, on peut vraiment avoir une amélioration des choses. Et c'est en gros, là, ben, ce matin, on avait une réunion de l'instance nationale du supporterisme qui est présidée par la ministre des Sports. Et l'un des enjeux, là, suite aux différents incidents qu'on a eus ces dernières semaine, c'était un peu de réfléchir aux bonnes pratiques de gestion du supporterisme. On est tous d'accord sur le fait que plus tu anticipes l'organisation d'un match, plus tu peux prendre des bonnes décisions. Si tu anticipes, ben, tu peux arriver à bien organiser le déplacement, à l'encadrer. Si tu vois qu'il y a un risque énorme, hein, ben, tu es capable de le dire 3 semaines avant et tu fais en sorte que les mecs ils réservent pas leur voyage et tu les interdis pas la veille ou l'avant-veille.
Et oui, messieurs, il commence à devenir habituel, la petite voice de fin, pour vous dire que Marc m'a signalé que c'était un peu trop long. Donc, encore une fois, c'était un invité de très bonne qualité. Donc, on va devoir couper pour pas que ça dure plus d'une mi-temps. On va couper l'épisode en deux. Donc, deuxième partie à retrouver dans 15 jours sur le pouvoir des ultras, pouvoir avéré, pouvoir fantasmé des ultras dans les clubs de foot. J'espère que ça vous ira.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.